Toulouse-Lautrec, place de la Berbie à Albi. On va visiter le musée et on va visiter 5 œuvres sur lesquelles on a créé un son personnalisé avec la mission locale et le studio du GME.
Il m'est venu l'idée de concilier art majeur et art mineur, comme disait Gainsbourg, et donc de mettre du son sur des tableaux.
Ce programme a été institué par le musée Toulouse-Lautrec qui est venu à notre rencontre pour effectivement initier nos jeunes à la culture et notamment à la culture locale avec Toulouse-Lautrec.
Tout un monde à explorer dans ce parallèle entre son et image, parce que bon, il y a plein de façons différentes de visiter un musée et je trouvais qu'il y avait un enjeu assez intéressant aussi de trouver des manières de se plonger dans une image fixe, de réveiller son imaginaire à partir de ce qu'elle évoque de façon très personnelle et la subjectivité de chaque participant.
C'était un personnage vraiment intéressant, que ce soit par sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de voir le monde en général, son parcours de vie et puis tout simplement sa façon de peindre, quoi, de faire des choses.
Après les avoir vus une seconde fois et en les imaginant avec le son qu'on a créé dessus, on voit de nouvelles choses, puis même ça permet de retravailler les sons dessus, même sur d'autres tableaux qu'avant on n'imaginait pas, ça nous fait une musique dans la tête sans rien qu'en les voyant, donc ça fait une bonne expérience, ouais.
Octobre 2021, au musée Toulouse-Lautrec à Albi. J'ai le plaisir de rencontrer un groupe de jeunes pour la présentation de leur travail de création sonore. Des créations sonores réalisées en résonance avec une sélection d'œuvres et l'univers du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Un projet de la mission Jeunes Tarn-Nord, du musée Toulouse-Lautrec et du GMEA. Une belle occasion pour les jeunes de découvrir ou redécouvrir ce peintre et ce musée. Une initiation à la fois artistique et technique, aux pratiques de l'enregistrement des voix, des paysages sonores et au montage créatif. Dans cette émission, vous entendrez Amélie Agut du GMEA, Madame Desjans et Madame Benacker de la mission Jeunes Tarn-Nord et bien sûr les jeunes participants au projet. Vous entendrez aussi des extraits des 5 créations sonores réalisées, des créations que vous pouvez retrouver en allant visiter le musée Toulouse-Lautrec à Albi ou en allant sur la page SoundCloud du musée. Nous commençons d'ailleurs avec une première création sonore et nous nous retrouverons tout de suite après avec l'interview des jeunes. Alors fermez les yeux et ouvrez bien grand vos oreilles pour cette balade sonore dans l'univers du peintre Henri de Toulouse-Lautrec.
Vous êtes ici pour une immersion sonore, au cœur du musée Toulouse-Lautrec.
Au cœur des œuvres.
Celle choisie par Nathan, Marie, Tom, Niels,
Benoît, Nathan et Florian.
Un parcours au musée pour s'approcher des œuvres et approcher le regard unique que Toulouse-Lautrec a porté sur le monde.
À travers nos regards, vos pas, nos pas,
vos yeux, nos yeux.
Votre écoute est la nôtre.
Nous serons vos guides invisibles pour les quelques instants à venir.
Laissez-vous guider. L'œil
écoute.
Écoute.
Vous êtes ici?
Dans la première salle du musée.
Vous n'avez rien à faire si ce n'est suivre nos pas et vous plonger dans les œuvres. Vous avez passé l'espace des portraits, des peintures animales, des œuvres de jeunesse, et vous êtes à présent en face d'un tableau marin.
Installez-vous confortablement.
Et si possible, sur l'îlot rouge au centre de la salle.
Esquisse allégorique, dauphin, peint en 1883.
Un homme sur un dauphin, un bateau au loin,
chevauché épique, inachevé.
Bonjour, moi je m'appelle Ludo Florian, du coup j'ai 18 ans.
Bonjour, je m'appelle Nils, j'ai 20 ans.
Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 18 ans.
Je m'appelle Benoît et j'ai 22 ans. Donc on est au musée Toulouse-Lautrec, place de la Berbie à Albi. On va visiter le musée et on va visiter 5 œuvres sur lesquelles on a créé un son personnalisé pour chaque, avec la mission locale et le studio du GMEA.
Alors, la mission locale, et le studio du GMEA et le musée Toulouse-Lautrec, c'est 3 structures que vous connaissez déjà, Florian ?
On est tous à peu près inscrits à la mission locale et on a été mis en contact du coup pour cet atelier-là qui se passe avec du coup la GMEA et le musée Toulouse-Lautrec.
Alors par rapport à l'atelier, qui c'est qui peut me présenter concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pendant cet atelier ?
On a été en fait en partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec qui nous ont fait une sélection en fait de 5 œuvres. Et donc ils nous les ont présentées et après ils nous ont demandé en fait de choisir une œuvre par binôme et de créer un univers sonore en fait spécialement pour le tableau en fait.
Alors ça vous a permis de découvrir peut-être Toulouse-Lautrec, le musée Toulouse-Lautrec ?
Juste de nom, parce que je suis passé devant beaucoup de fois, mais j'avais jamais visité. Mais ça m'a bien plu au final, il a une histoire assez intéressante avec sa mauvaise santé. Il était vraiment à l'écart, quoi.
Moi, ça faisait depuis quelques années que je connaissais le musée Toulouse-Lautrec. Et quand on m'a annoncé ce projet, genre au début j'étais assez réticent, enfin je me posais beaucoup de questions. J'étais là, mais comment on va pouvoir animer des tableaux, comment on va pouvoir mettre du son autour des tableaux. Et quand on nous a vraiment expliqué plus en détail, c'est là où j'ai vraiment mieux compris comment on allait fonctionner en fait.
Moi pareillement, je connaissais que de nom. Donc ça m'a fait plaisir de voir tous les tableaux, de redécouvrir tout l'univers de Toulouse-Lautrec. Et c'était un plaisir de participer au projet.
Je connaissais rapidement quelques œuvres de Toulouse-Lautrec, mais je n'étais jamais vraiment venu dans le musée. Et puis découvrir un peu toutes ses œuvres et tout ce qu'il a fait autour, à part ses œuvres plus connues, ça m'a vraiment impressionné. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai trouvées super intéressantes, et du coup il y a du coup aussi les œuvres sur lesquelles on a flashé nous-mêmes.
Donc ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur le musée Toulouse-Lautrec et sur ce personnage Toulouse-Lautrec qui est assez connu, qui est un ambassadeur de la cité épiscopale d'Albi. Aujourd'hui, après cet atelier, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ? Vous avez appris sur Toulouse-Lautrec, Florian, quelques mots qui te passeraient par la tête, qui présenteraient ce peintre ?
De ce que j'ai bien retenu, moi, de mon côté, c'est que c'était un personnage vraiment... vraiment intéressant, que ce soit par sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de voir le monde en général, son parcours de vie, et puis tout simplement sa façon de peindre, quoi, de faire des choses. C'est un personnage vraiment exceptionnel qui a plein d'histoires autour de lui et tout ça.
Moi j'ai trouvé, même à travers les tableaux attachants, il avait l'air d'être quelqu'un de très gentil. Il aidait toujours les gens et il avait beaucoup d'amis autour de lui qui l'aidaient tous les jours. Ça, à travers les tableaux, ça se voyait comment il peignait, la façon. Il avait un style plutôt bien à lui, on le reconnaît facilement aussi grâce aux affiches. Voilà.
Moi je connaissais un peu de don, mais je connaissais rien de sa vie vraiment en détail. Et le jour où j'ai appris tout ce qu'il avait vécu, j'étais en quelque sorte un peu fasciné, genre je me suis dit malgré tout ce qu'il a traversé, il a su avoir du génie, enfin il a rien lâché, il s'est lâché, il a vécu sa passion jusqu'à ses derniers jours, quoi, genre jusqu'à son dernier souffle, quoi. Donc,
ouais, grâce à sa maladie, donc c'est des os de verre si je me souviens bien. Il disait que vu qu'il était condamné, vu qu'il savait qu'il n'allait pas vivre bien longtemps, il en profitait pour se jeter corps et âme dans vraiment tout ce qu'on lui proposait. C'est ce qui m'a touché le plus, quoi. C'est de vraiment aucune hésitation dans l'action, quoi. Il cherchait à faire le plus de choses possible parce qu'il savait que son temps était compté, quoi. Et, même si on sait que notre temps est compté aussi, mais les circonstances de sa vie ont fait que c'est pas juste qu'il le savait, mais il l'avait vraiment proche de lui, sur son corps en fait. Et donc ouais, ça l'a poussé à créer au plus possible, faire le plus de choses possible. Et c'est ce que je retiens le plus du personnage.
Descendez les quelques marches à votre droite et dirigez-vous au fond de la salle.
Sur le mur en face, tout au fond, vous verrez le portrait d'une femme aux yeux baissés.
Vous pouvez choisir de vous approcher très près et pourquoi pas vous asseoir en contrebas du tableau.
La comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, peint en 1881, vue par Marie et Nathan.
Traits de pinceau nerveux, femme assise.
Les yeux baissés.
Des couleurs froides mais douces.
Immobile. Elle ne bougeait pas, malgré le souffle de la brise d'été, immobile, telle une statue de marbre devant moi. Épurée, sans défaut, noble, créant irrémédiablement cette distance éternelle entre nous, entre ses pensées et le monde extérieur, entre qui elle est et qui elle paraît être. La tasse de thé devant elle, froide avec le temps, était le point d'ancrage de son regard. Les yeux baissés, telle la coutume noble habituelle dont elle respectait parfaitement les règles, rendant ses émotions imperceptibles, inatteignables pour le commun des mortels. Elle se mêlait si bien à son environnement, à ce château, cet environnement impersonnel mais élégant, sans ajout, sans décorum et accessoires superficiels, ne portant que sa robe de chambre chaste et d'un blanc pur, et son alliance finement ouvragée et entretenue, malgré les années à son doigt, élégamment posée avec douceur.
Vous avez été à votre tour aussi artiste d'un moment, si on peut dire, puisque vous avez suivi un atelier de création radiophonique. Je crois que vous avez été accompagné donc par Amélie Agut, qui est médiatrice au GMA. Qui c'est qui peut me présenter ce que vous avez fait avec Amélie ?
Durant l'atelier, on s'est souvent regroupé du coup directement au GMA. Pour travailler sur ces projets-là, c'est-à-dire on a beaucoup enregistré de sons, on a travaillé, on a écrit, on a aussi travaillé aussi sur l'ensemble, sur la bande son ensemble, du coup avec les voix et tout ça. On a pu prendre le temps d'enregistrer plein d'objets, des sons, du piano, pour ensuite voir comment on pouvait l'assembler et créer quelque chose de final et de concret, quoi.
Ce que j'ai retenu surtout, c'était la découverte d'être dans un studio. C'était la première fois que j'allais dans un studio, donc ça faisait spécial. Et c'est le travail avec tous les sons, les travailler, les remixer, faire des effets dessus. Et puis aussi le piano, on a fait beaucoup de piano. Ça a été un bon...
Moi, j'ai trouvé ça génial et j'étais assez fasciné et assez... intrigué de savoir qu'on pouvait mélanger genre de la peinture avec du son, quoi. Genre c'est... Je m'attendais pas du tout au résultat que ça allait donner, donc voilà.
Moi j'espère revenir au GMEA faire des choses. Ouais, ça m'a vachement intéressé, la musique expérimentale, faire de la musique avec toutes sortes d'objets, toutes sortes de sons. J'aimerais me diriger par là et ça faisait quelques années que j'avais ça en tête, mais j'avais jamais eu le matériel entre. Même si c'est une mauvaise excuse, puis qu'on peut faire de la musique avec des fourchettes et des verres et tout ça, mais ça m'a fait comme un petit trampoline en tout cas.
Donc ça t'aura servi peut-être pour ton parcours futur.
Ouais, ça m'a donné plein d'idées. J'avais déjà des idées, mais de l'avoir fait, d'avoir bidouillé avec tous ces trucs-là, ça m'a aidé, quoi. Ça m'a poussé à faire.
Allez, avant de donner la parole à Amélie, j'aimerais savoir, est-ce que ça a aussi changé votre regard sur ce que pouvait être et proposer un musée ? Florian ?
Alors, je suis rarement allé dans des musées dans ma vie pour vraiment prendre le temps de découvrir tout ça. Et je pense que oui, ça m'a fait découvrir complètement tout un autre univers, que ce soit, parce que c'était pas forcément quelque chose que j'avais pris le temps de découvrir, le monde de la peinture et toutes ces choses-là et tous ces artistes qui ont existé. Et je pense qu'avoir complètement découvert ce musée avec la vie de l'artiste en question et tout ça, ça m'a fait découvrir quelque chose de plutôt beau, quoi. Un monde assez intéressant, quoi.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout aux tableaux auxquels on travaille avec le son, on les regarde différemment après. Après les avoir vus une seconde fois et en les imaginant avec le son qu'on a créé dessus, on voit de nouvelles choses. Puis même, ça permet de retravailler les sons dessus, même sur d'autres tableaux qu'avant on n'imaginait pas. Ça nous fait une musique dans la tête sans rien qu'en les voyant, donc ça nous fait une bonne expérience, ouais.
Ouais, et l'univers justement du son et des arts en général, c'est une découverte pour toi. Est-ce que tu penses du coup que ça va te servir pour ton prochain parcours, pour ton futur ?
Alors là, je sais pas du tout. Je prévois pas trop le futur, mais ouais, moi ça me plairait bien. Moi, j'ai bien aimé ça, l'expérience que ça a fait.
Alors moi, en temps normal, je suis pas du tout amateur de peinture classique. Mais le jour où justement j'ai appris qu'il y avait cette idée de projet, ben je me suis dit, vas-y, fonce, lance-toi, genre fais-le. Et tu vois, tu verras ce que ça donne à la fin, quoi.
Moulin Rouge, la Gaulue, peint en 1891, vu et entendu par Tom. Dynamique des mouvements. Prémisse de l'esquisse cartoonesque.
Couleur franche. Aux origines de l'affiche publicitaire. La Gaulue au cabaret du Moulin Rouge tous les soirs. Entrée.
Vous êtes bien sur Radio Albigès. Vous écoutez une émission consacrée au projet de création sonore. Des créations sonores réalisées en résonance aux œuvres du peintre Henri de Toulouse-Lautrec en octobre 2021. Un projet proposé par la mission Jeunes d'Art Nord, le GMEA et le musée Toulouse-Lautrec. Nous retrouvons tout de suite l'interview de Madame Desjean et Madame Benacker de la mission Jeunes d'Art Nord.
Donc la mission locale et la mission Jeunes d'Art Nord. Donc nous couvrons le territoire Gaillac, Carmaux, Albi avec trois antennes. Nous accompagnons plus de 3000 jeunes par an. Et donc ce programme a été institué par le musée Toulouse-Lautrec qui est venu à notre rencontre dans le cadre d'un dossier sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance pour effectivement initier nos jeunes à la culture et notamment à la culture locale avec Toulouse-Lautrec. Et donc effectivement nous avons trouvé ce projet séduisant. Et donc ma responsable de secteur, Madame Benacker, s'est occupée de monter ce projet avec Toulouse-Lautrec, de trouver effectivement des jeunes. On a eu quelques difficultés au niveau du timing, parce que ce dossier devait sortir en 2020. Mais contexte sanitaire oblige, voilà, c'est fin 2021.
Très bien. Pour les auditeurs qui souhaiteraient aussi peut-être aller à la rencontre des dispositifs proposés par la mission locale, on peut vous retrouver du côté d'Albi, mais aussi, j'imagine, un site internet.
Alors, nous avons trois sites. Nous sommes physiquement sur Gaillac, où ils sont joignables au 05 63 33 61 61, sur Carmaux au 05 63 36 18 02. Et sur Albi au 05 63 47 08 85, nous avons une page Facebook, Mission Jeunes d'Art Nord, et nous avons un site internet, effectivement, très dynamique.
Des seuls dispositifs que vous avez comme ça, ou vous proposez d'autres types de dispositifs, de programmes pour les jeunes ?
Les missions locales sont effectivement un outil pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc nous travaillons plusieurs champs de compétences et champs d'action. Nous travaillons l'emploi, la formation. Nous travaillons aussi tout ce qui est citoyenneté. Santé, logement et santé, logement et mobilité. Donc effectivement, ce sont nos champs d'action et c'est là-dessus que les jeunes peuvent venir à la mission locale pour qu'on les accompagne ou pour qu'on les aide s'ils rencontrent des difficultés dans ces secteurs.
Merci Madame Desjean, je rappelle que vous êtes directrice. Dans quelques petites minutes, on va avoir droit à une visite, à une première visite privée, une première restitution. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite, de cette restitution? Vous avez déjà peut-être un petit retour à nous faire sur la qualité de ce projet.
En tant que directrice, je sais que les jeunes sont ravis d'avoir participé à ce projet, mais je vais laisser Madame Benacker, qui a connu ce projet à la perfection, vous répondre et vous dire ce qu'elle en attend. Voilà.
Madame Benacker, bonjour.
Bonjour.
Donc vous pouvez nous représenter votre mission, au sein de votre rôle, fonction au sein de la mission locale.
Au sein de la mission locale, je suis responsable de secteur et je suis surtout en charge aussi souvent de monter des projets. Donc quand le musée Toulouse-Lautrec nous a sollicité afin de monter un projet, il m'est venu l'idée de concilier art majeur et art mineur, comme disait Gainsbourg, et donc de mettre du son sur des tableaux. Et c'est la raison pour laquelle, après, avec mes collègues, on a essayé de mobiliser des jeunes autour de ce projet. Et je suis ravie de voir qu'ils sont vraiment appropriés et qu'ils ont vraiment trouvé plaisir à ça. Et après, donc, on monte en effet d'autres projets en parallèle. Là, on a une action sur le fil dont vous aviez également parlé, là, qui doit se faire là courant de la semaine, sur la prise de risque, etc. Et donc, ce sont quelques projets qui sont à la marge de nos missions, qui restent quand même l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie, en levant bien sûr tous les freins périphériques d'accès à l'emploi et à la formation. Voilà.
Quel ressenti avant cette visite, cette première restitution du projet ?
Bien, je trouve que les jeunes ont très bien parlé et je suis ravie qu'ils aient pris beaucoup de plaisir à ce projet, d'autant qu'on a eu beaucoup de difficultés à le monter. Et là, je tiens à saluer la patience des partenaires et l'investissement des partenaires, puisqu'avec le contexte Covid, ce projet devait initialement être fait en 2020. Et donc, il a fallu sans arrêt remanier les dates et mobiliser aussi mes collègues qui sont beaucoup investis pour trouver les jeunes et pour accompagner les jeunes sur ce projet. Et GMEA aussi qui a été extrêmement patient et bienveillant aussi dans l'encadrement des jeunes sur ce projet.
l'art et la culture, donc essentiel aussi dans le parcours des jeunes et comme justement levier pour peut-être déclencher des futurs parcours.
Tout à fait, il y a beaucoup de métiers autour des métiers de l'art et ce que l'on veut aussi c'est sensibiliser les jeunes. Déjà il y a une ouverture à la culture, mais la culture fait partie de notre quotidien, elle n'est pas réservée à certaines personnes. Et il y a surtout beaucoup de métiers autour de ça. Et on peut concilier emploi et plaisir. Et la culture permet de concilier aussi emploi et plaisir.
Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, on va donner la parole à Amélie Agut, donc médiatrice au GMEA. Amélie, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a déjà eu l'occasion de t'entendre et de travailler ensemble sur Radio Albiges. Concrètement, comment ça s'est passé, ce projet? Comment on arrive à lier le son à l'art, à la peinture, à l'image, quoi?
Alors là, c'était encore un nouveau projet mené avec le GMEA, cette fois en partenariat avec la mission locale et le musée Toulouse-Lautrec. Donc effectivement, comme ça a été au-delà des enjeux tout à fait pertinents qui ont été évoqués auparavant par les jeunes et par les partenaires, moi en tant qu'intervenante et par rapport à la conception de cet atelier, je voyais aussi pas mal d'enjeux par rapport à la création sonore et au fait de mettre en dialogue une œuvre choisie en tout cas par les jeunes. Je trouvais ça intéressant aussi qu'ils s'emparent, qu'ils choisissent parmi... La collection foisonnante du musée et la traduction sonore. Alors c'est un petit peu limité quand je parle de traduction sonore, mais il y a tout un monde à explorer dans ce parallèle entre son et image, et notamment image fixe et notamment peinture, ce qui n'est pas forcément le plus évident au départ. Mais j'avais envie de les amener vers cette expérience-là, de se plonger dans une œuvre, de se plonger dans un tableau. Parce que bon, il y a plein de façons différentes de visiter un musée. Et on est aussi dans une époque où les images, la place de l'image est assez particulière et tout va très vite. Et le temps d'attention se réduit chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Et je trouvais qu'il y avait un enjeu assez intéressant aussi de trouver des manières de se plonger dans une image fixe, de réveiller son imaginaire à partir de ce qu'elle évoque de façon très personnelle et la subjectivité de chaque participant, et aussi de faire des analogies entre couleurs. On peut parler de couleurs sonores dans une peinture, il peut y avoir des plans dans la création sonore aussi, on a des premiers plans, des seconds plans, il y a des parallèles à faire entre les façons de choisir les sons pour leur grain, pour leur couleur, pour leur texture et la composition.
Traverser la salle suivante et monter les escaliers.
Vous trouverez une étrange silhouette bleue, dansante et virevoltante.
Au visage jaune sur fond cartonné.
C'est Jeanne Avril, la mélénite dansant.
Jeanne Avril, la mélénite dansant, peint en 1892, évoqué par Benoît.
Durant ces années de vie festive et intense sur les hauteurs de Montmartre, Henri de Toulouse-Lautrec peint ce tableau d'un amour impossible. Celui qu'il porte pour Jeanne Avril, une grande danseuse de son époque, au Moulin Rouge. Il capture une image touchante et poétique d'un coup de cœur dont il ne connaîtra pas le visage de plus près. Une parmi de nombreuses fois, Henri de Toulouse-Lautrec est brisé par les sentiments et la rage de l'injustice de sa naissance. Nous sommes en 1892.
Chaque jeune a su très vite choisir son œuvre. On a eu une magnifique visite guidée grâce à Camille, c'était une visite passionnante. Moi, j'ai appris énormément de choses parce que je me rends compte que que j'avais une connaissance assez superficielle finalement de l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Et là vraiment on a eu une immersion très enrichissante et suite à ça, les jeunes ont tout de suite décidé de l'œuvre sur laquelle ils voulaient travailler. Donc ça j'étais assez agréablement surprise parce que ça a été vraiment très marqué. Et ensuite, ils s'en sont emparés chacun de façon différente. Donc on a des approches de la création sonore et des formes qui ont été choisies, qui sont assez différentes. Donc on a un bel éventail de ce qu'on peut faire à partir du son enregistré, du montage et de la composition à partir de sons, de musique et de voix. Donc il y a eu des propositions plus apparentées à des compositions électroacoustiques à partir de sons enregistrés, de sons d'instruments, d'objets, etc. Il y a eu d'autres jeunes qui ont affirmé un goût pour l'écriture et effectivement qui ont recyclé leur goût pour l'écriture et qui ont écrit des textes qui ont ensuite ça a été l'ossature de la création et ensuite on a choisi des musiques et des sons pour accompagner ce texte. Et il y a eu aussi des paysages sonores, un travail de recomposition d'une ambiance sonore. Donc vraiment, on a été dans des directions assez différentes. Et ensuite, on a articulé ces 5 tableaux qui ont été choisis par des sons de transition. Il y a eu un travail d'écriture et de réflexion aussi sur la circulation dans le musée, parce que les œuvres ne sont pas, il faut préciser qu'elles ne sont pas dans le même espace. Et on s'est posé aussi la question du dispositif. Alors, il y a plein de façons différentes de sonoriser une exposition ou des œuvres, en fait. On aurait pu aussi travailler sur une salle, ça aurait pu être la contrainte de base et avoir du son amplifié, une bande de son, proposée aux visiteurs. Mais on s'est dit, et d'autant plus que les jeunes ont choisi des œuvres qui étaient espacées, donc c'est l'option du casque qui a été choisie et qui présente plusieurs avantages, c'est-à-dire que c'est déjà plus immersif et ça permet de se concentrer, de s'isoler, d'être dans son monde pendant qu'on découvre l'œuvre. Il y a une histoire de rythme aussi, c'est-à-dire que c'est le temps proposé par la création. Donc au lieu de visiter en passant et en glanant quelques impressions dans un musée, là on se pose jusqu'à parfois 4-5 minutes dans une œuvre et il se passe des choses. Après chacun le vit de façon différente, mais il se passe quelque chose de différent, je trouve, dans la rencontre avec l'œuvre quand on se pose et qu'on s'installe confortablement et qu'on commence à entrer dans l'œuvre. Et il a fallu donc articuler tout ça. Il y a eu un travail d'écriture, de circulation. Comment guider le visiteur, sachant que là, on a des jeunes qui sont des guides. J'aime bien parler de guides invisibles, qui ne seront pas là le jour de la visite. Et l'idée, c'était aussi de jouer avec les codes de l'audio-guide classique qu'on peut rencontrer dans les lieux patrimoniaux, ou touristiques ou culturels, où parfois on a des explications purement informatives. Donc là, on a ce code-là. Donc il y a une voix qui accompagne. Mais on essaie de l'amener ailleurs, et par l'écriture, et par l'habillage sonore et le choix des sons et des musiques qui l'accompagnent. Et de façon plus personnelle, moi j'avais déjà travaillé, mais plutôt avec des photos. Donc là, la peinture, c'est encore autre chose. Je crois que c'est encore une autre étape. Mais voilà ce que je disais, quand on a testé la première version hier, moi il y a des tableaux que j'ai vus bouger. j'ai imaginé. Ça réveille l'imaginaire. Après, chacun va le vivre différemment, mais la perception, effectivement, comme l'évoquaient très bien les jeunes, entre la première fois où on les découvre et quand on a travaillé dessus, quand on les a écoutés pendant un temps, c'est plus du tout la même. Il y a une familiarité, une intimité qui se crée avec l'œuvre qui est assez fascinante. Moi, j'ai toujours eu goût aussi quand je me promène, que je visite des musées, j'ai souvent un casque sur les oreilles et je teste des musiques, j'ai cette habitude. Donc du coup, j'avais depuis longtemps cette idée de faire ce type d'atelier parce qu'il se passe des choses un peu improbables et très poétiques quand on écoute de la musique, même de la musique qui n'a rien à voir, parce que là aussi, on a une œuvre qui date, qui est associée. On peut associer un certain genre musical plutôt classique, a priori, mais il y a des sons électroniques qui sont utilisés, il y a des ambiances plus improbables, et ça marche, ça amène autre chose dans la perception. Parce qu'il y a autant de personnes que de perceptions des œuvres, donc là, c'est un petit peu un écho à tous ces phénomènes-là.
Merci Amélie Agut, donc médiatrice et créatrice sonore au GMEA. Alors peut-être ça aura donné envie à nos auditeurs tarnais, albigeois, qui connaissent bien le territoire, ou peut-être nos auditeurs qui sont là plus ponctuellement comme des touristes, d'aller revisiter ce musée Toulouse-Lautrec, et peut-être qu'un jour ces créations seront disponibles au grand public. En tout cas, on l'espère.
Ça c'est la phase numéro 2. On va laisser infuser tout ça et puis refaire le point pour voir ce qu'on peut proposer effectivement dans un deuxième temps pour ouvrir ce travail et ces créations à un public plus large, effectivement.
Pour terminer, le nom des tableaux.
Ah, le nom des tableaux, donc on a 5 tableaux. La première, c'est pas les œuvres les plus connues, finalement. Du coup, moi-même, j'étais surprise du choix. Mais la première, c'était Esquisse allégorique dauphin, qui est plutôt une œuvre de jeunesse de Toulouse-Lautrec, pas la plus connue. On a un portrait de la mère de Toulouse-Lautrec, la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, qui est un portrait plus connu, celui-ci. Et ensuite, on a une affiche, Moulin Rouge la Goulue. La quatrième, que j'aime beaucoup, je dois avouer, c'est Jeanne Avril, la Mélénite dansante. Et la dernière, c'est la modiste, ce qui est un portrait aussi. Voilà. Et la boucle est bouclée.
Rendez-vous à présent pour une dernière découverte, celle de la modiste.
La modiste, peint en 1900, vue par Niels.
Décembre 1900. L'hiver de cette année était rude. Je revenais d'un bal fatigué, alors que le voisin jouait encore sur les touches de son piano à cette heure tardive de la nuit et découvrait la lettre posée sur mon bureau. Marguerite, je suis dans le regret de t'apprendre que je ne pourrai pas participer à la représentation. Mon père, gravement malade, est actuellement dans un état critique et je me dois de m'occuper de lui dans les semaines à venir et porte dans cette lettre mes excuses et regrets. Signée Hélène. J'espère pour elle qu'elle n'utilise pas encore une excuse. Comment ferais-je sans elle, cette sotte, ne me l'avoir dit que 3 jours avant la représentation ?
Et Baki Bravemonde, tout son brancat sous la zondos de Radio Albitzes. Vous venez d'écouter une émission consacrée au projet de création sonore réalisé en résonance aux œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec. Un projet proposé par le musée Toulouse-Lautrec, la mission Jeune Tarn Nord et le GMEA. Interview réalisée à l'occasion de la restitution du projet en octobre 2021. N'hésitez pas à aller écouter l'intégralité des créations sonores en allant visiter le musée ou bien en allant visiter la page SoundCloud du musée. Merci de votre écoute et à l'plaisir.
De ce que j'ai bien retenu moi de mon côté, c'est que c'était un personnage vraiment, vraiment intéressant, que ce soit par sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de voir le monde en général, son parcours de vie et puis tout simplement sa façon de peindre, quoi, de faire des choses.
Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était la découverte d'être dans un studio. C'était la première fois que j'allais dans un studio, donc ça faisait spécial. Et c'est le travail avec tous les sons, les travailler, les remixer, faire des effets dessus. Et puis aussi le piano, on a fait beaucoup de piano. Ça a été un bon moment.
Moi, j'ai trouvé ça génial et j'étais assez fasciné et assez intrigué de savoir qu'on pouvait mélanger genre de la peinture avec du son, quoi. Genre, je m'attendais pas du tout au résultat que ça allait donner, donc voilà.
Il y a beaucoup de métiers autour des métiers de l'art. Et ce que l'on veut aussi, c'est sensibiliser les jeunes. Déjà, il y a une ouverture à la culture, mais la culture fait partie de notre quotidien. Elle n'est pas réservée à certaines personnes. Et il y a surtout beaucoup de métiers autour de ça. Et on peut concilier emploi et plaisir. Et la culture permet de concilier aussi emploi et plaisir.